La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Et en cette période de grève, toutes les solutions pour se déplacer sont évidemment les bienvenues, c'est Elisabeth. Hein. Vous nous proposez iFlorent, une entreprise française de location de voitures.
Pour 1 euro. Pour 1 euro, vous pouvez vous déplacer d'une ville à une autre. Et en plus, vous rendez un service puisque la voiture que vous conduisez est celle d'un propriétaire ou d'un loueur qui a besoin de déplacer sa voiture d'une ville à une autre. La location peut durer de 24 à 48 heures. Il s'agit souvent d'un aller simple. Résultat, ce sont des centaines d'euros économisés, parfois jusqu'à 500 euros par rapport au prix d'une location de voiture classique. Vous pouvez même vous créer des alertes sur vos trajets préférés. Bonjour Claire Canoulier.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice d'iFlorent. iFlorent existe depuis 2012. Et alors là, on peut dire qu'en ce moment, vous faites votre année.
Ouais, en ce moment, c'est vrai que c'est le bon plan pour la grève parce que on propose sur iFlorent des trajets qui sont des trajets à longue distance, donc à 1 euro pour acheminer une voiture d'un point à un autre.
Donc, Paris-Marseille, Nantes,
Bordeaux, je crois qu'on a Nancy, on a quasiment toutes les destinations en ligne en ce moment. Et il se trouve que ça répond à un besoin actuel aussi des loueurs de voitures. En fait, il y a de plus en plus de flux logistiques dans tous les sens à cause de la grève. Les gens louent aussi plus. Donc de ce fait, on a besoin de réacheminer en ce moment beaucoup de véhicules, notamment vers les aéroports, donc parisiens, mais aussi un peu partout.
Ou vers les gares TGV aussi.
Voilà, un peu partout sur la France, vers les gares. Et donc de ce fait, on a une explosion de trajets sur notre plateforme iFlorent et on a aussi une explosion de demandes parce que voilà, votre train est annulé en dernière minute.
Vous disiez que c'était l'équivalent d'un mois d'été là en ce moment.
Voilà, c'est à peu près un mois d'été, enfin un très bon mois d'été on va dire. Et ça se poursuit juste sur cette semaine et ça va se poursuivre, jusqu'à la fin des vacances. Donc voilà, nous on bénéficie de ce phénomène-là mais on a aussi hâte que tout rentre dans l'ordre parce qu'on sait aussi que nos clients souffrent particulièrement à organiser tous ces flux logistiques.
C'est une histoire de logistique de voiture, mais pas que. Alors par exemple, si ce week-end là, j'ai envie de descendre, tiens, à Toulon, comment faites-vous au hasard. Petite pensée pour Raphaël Duchemin.
D'accord. Vous allez sur la plateforme donc iFlorent qui s'appelait donc Lucky Log il y a quelques mois, et donc vous connectez, vous renseignez ville de départ d'arrivée. Si on a un véhicule, parce que ça part très très vite en ce moment, vous le prenez, vous pouvez le louer. Donc il suffit de renseigner l'horaire de prise du véhicule à l'agence de location.
Donc c'est très souvent dans une agence. Je le récupère dans une agence, mais c'est pas iFlorent, l'agence, c'est
pas
quoi?
Pas du tout, c'est une agence.
C'est vos partenaires.
Europcar, Avis, Hertz. Nos partenaires, ce sont les professionnels qui ont besoin de faire déplacer une voiture d'un point A à un point B. Donc effectivement, ça va être chez un pro. Très souvent, on a aussi des particuliers qui cherchent à faire acheminer des véhicules pour des raisons personnelles. Ils ont vendu une voiture à quelqu'un d'autre. Ils ont déménagé. Ils ont leur voiture qui reste derrière eux. Donc voilà, vous pouvez aussi aller chez un particulier éventuellement. Et donc, vous allez vous rendre en agence. Vous signez un contrat de location avec l'agence. Et puis, vous faites l'état des lieux.
Avec l'agence, pas avec vous.
Voilà. À iFlorent, nous, on ne loue pas la voiture. On met à disposition ces trajets bon plan. Et ensuite, vous restituez le véhicule 24 à 48 heures après.
Dans une autre agence.
Dans une autre agence. Alors, le point de départ et d'arrivée sont fixes, de ce fait.
Bien sûr.
Et puis, vous avez un temps de location assez limité, 24-48 heures, et un kilométrage qui est également limité au trajet, plus 20%.
En cas de souci, on a affaire à un service client normal. C'est vous le service
Absolument.
Client, c'est l'agence de location.
Effectivement, le service client. Donc, on se connecte au loueur pour s'il y a un pépin. Et donc, on a un service client qui est ouvert du lundi au samedi. Et on a aussi une solution d'assistance en cas de pépin. Vous êtes assuré tout risque. Et donc, c'est iFlorent qui fournit aussi l'assurance. Vous avez en fait une police d'assurance tout risque Alliance qui est fournie dans le 1 euro symbolique.
Et tout ça pour 1 euro.
Voilà.
Notre coach, Fabrice Marcella.
Oui, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de demandes, surtout en ce moment. Quel conseil vous pourriez donner à des auditeurs qui souhaitent optimiser en tout cas leur chance de trouver un véhicule à 1 euro?
Le conseil, ce serait de s'inscrire au plus vite sur la plateforme iFlorent. Vous pouvez renseigner vos trajets préférés et donc vous allez recevoir un mail dès qu'il y a un trajet ou une notification. Et en fait, c'est important de s'inscrire parce que les trajets en ce moment partent très très vite.
On a besoin de se connecter entre 2h et 3h du matin pour avoir un véhicule.
Voilà. Exactement.
Il y a des délais de réponse
En fait, c'est vrai que nous, on est assez gagnants dans ce système de grève parce que les loueurs de voitures souvent réagissent un petit peu en dernière minute pour organiser leur logistique puisqu'ils n'ont pas une prévision très très forte. Donc, il se trouve que les particuliers en ce moment ont des problématiques de dernière minute pour aller voir leur famille pour les vacances de Noël ou bien se déplacer. Et donc de ce fait, ça match assez bien. Donc voilà, mais il faut s'y prendre. Oui, aujourd'hui on a des locations un, deux jours à l'avance. Donc, mais on peut avoir aussi sur la semaine du 31. Donc on est à peu près à 10 jours de visibilité.
Vous avez levé, je crois, près de 4 millions d'euros il y a quelques mois. Oui. Vous êtes 50 salariés. Vous comptez vous développer au-delà de la France ?
Oui, en fait, on se développe sur plein d'activités. Donc, iFlorence, c'est un pan de notre activité. On fait aussi beaucoup de choses autour de la logistique des véhicules, qui est un vrai problème aujourd'hui en France. Et on vient d'ouvrir une filiale en Belgique. Donc, on est en train de développer l'activité sur le territoire belge. On sait qu'il y a beaucoup de flux frontaliers aussi. Et on a régulièrement des Paris-Bruxelles aussi sur la plateforme.
Donc, vous créez des emplois. Ça marche oui. bien et ça ne nous revient pas très cher. Hein, louer une voiture à 1 euro,
c'est intéressant.
Oui, c'est très intéressant.
Et pour les pros aussi, hein, pour information, pour eux, ça leur coûte beaucoup moins cher que de faire appel à un transporteur.
On a la possibilité de prendre une voiture ou un utilitaire ?
Absolument. On a aussi, si vous déménagez, on a aussi des véhicules utilitaires qui sont à rapatrier. Parce que voilà, vous pouvez avoir besoin d'un utilitaire pour faire un aller simple, pour déménager dans un sens et puis pas forcément dans l'autre sens. Donc oui. Forcément, c'est utile. Et donc aujourd'hui, on a à peu près moitié-moitié de voitures et d'utilitaires sur les offres qu'on propose. Donc c'est vrai que ça sert beaucoup au déménagement. On sait que les étudiants déménagent beaucoup entre plusieurs villes, beaucoup de fois dans leurs études. Donc c'est très utilisé par les étudiants.
Ça s'appelle iFlorent et c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1. Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, on va vous aider à baisser le thermostat pour faire chuter la facture et moins consommer d'énergie. C'est ça aussi, la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1.
Midi 14h.
La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on aime que vous ayez des idées et qu'elles deviennent réalité. Quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a tout autour de nous des projets novateurs et créatifs et que certains ont déjà bien avancé ou sont bien engagés. En ce moment, nous pensons tous chauffage, même s'il fait très doux, le froid est là, en tout cas l'hiver est là. Eh bien, vous allez voir qu'en tout cas, nous pouvons apprendre à mieux consommer. Bonjour Jean-Laurent Chaube.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de WEEN, on dit WEEN ?
Exactement, oui.
W-E-E-N. Et vous avez inventé le thermostat intelligent. Il est avec nous sur europe1.fr. Racontez-moi d'abord peut-être comment est né le projet. Je crois que c'était il y a 5 ans.
Exactement. On existe depuis 5 ans maintenant. Et en fait, on a constaté assez facilement que à peu près personne n'aime jeter l'argent par les fenêtres. Et quand on parle de chauffage, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire quand vous chauffez votre maison ou votre appartement alors qu'il est vide, clairement, c'est de l'argent qui sort par les fenêtres. Et en même temps, on n'aime pas non plus avoir froid quand on rentre chez soi. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est finalement assez compliqué de résoudre cette équation, de dire tout le temps où je ne vais pas être chez moi, je voudrais faire le maximum d'économies, en tout cas dépenser le moins possible. Et néanmoins, j'aimerais qu'il fasse bon au moment où j'arrive chez moi. Voilà, parce que ça dépend à la fois de l'heure à laquelle on va rentrer, on ne sait pas forcément, mais encore ça peut se calculer. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la météo qu'il fait dehors, selon votre maison, votre appartement, comment il réagit, bien parfois ça peut décaler de 1 heure ou de 2 heures le besoin même de mise en chauffe. Et donc WEEN, c'est ça. On apprend, on calcule et on ajuste en permanence la température pour à la fois faire un maximum d'économies quand vous n'êtes pas là.
Donc ça signifie que dans le petit boîtier qui est chez nous, qui est avec nous sur europe1.fr pour ceux qui nous suivent, il y a une intelligence artificielle qui est reliée à une application qu'on va télécharger sur notre téléphone.
Exactement. En fait, pour faire ce que l'on fait, c'est un peu comme si vous aviez une douzaine d'ingénieurs chez vous, à temps plein, qui calculent à quelle vitesse votre maison...
S'ils restent chez nous, on va être obligé de laisser le chauffage allumé.
Exactement. Donc ce serait double perte. Et, non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que définir le profil thermique d'une maison, c'est un vrai boulot. La météo qui change tout le temps, vos habitudes, pas vos habitudes. Et donc, nous, on a mis tout ça dans cette petite boîte. Et donc, elle est bien chez vous. C'est aussi un sujet par rapport... à la protection des données, donc c'est un point très important. Et en effet, c'est elle qui va apprendre, qui va recevoir des informations et qui va ajuster la température.
Donc, je suis à Europe 1, je rentre dans 1h30 chez moi. Au moment où je vais prendre ma voiture ou mon transport en commun, si j'y arrive, je vais déclencher l'application. Ça va être plus long à pied.
Alors, le principe, c'est que justement, ce que l'on propose, c'est de le faire pour vous. Parce que tous les jours, quand vous êtes chez Europe 1, vous n'allez pas en permanence vous dire « Tiens, là, je vais recalculer. » Enfin, donc, vous n'allez pas le faire. Et donc, le principe, c'est qu'il le fait pour vous.
Il a la mémoire de mes déplacements.
Il va apprendre vos habitudes. Et puis, ben, en permanence, il va réajuster. Et s'il se rend compte que finalement, vous êtes parti en week-end, loin de chez vous pour les fêtes, eh bien, il va aussi le prendre en compte pour faire plus d'économies ce week-end-là par rapport au week-end précédent.
Ça signifie qu'il est capable de détecter ma présence à la maison ?
Exactement. Donc, il y a un détecteur de présence local qui est enregistré dedans et qui peut prendre en compte, d'ailleurs, que vous ayez un téléphone portable ou pas. Ça marche même avec les enfants quand ils rentrent de l'école, par exemple. Donc, c'est vraiment pour la famille.
Donc, on couple confort et économie.
Exactement. Donc, en fait, c'est ça le principe. Nous, vraiment, on voit que l'adoption de nos clients, c'est que il fait toujours bon quand ils arrivent chez eux. Et on a une appli qui démontre, qui vous calcule en permanence le coût de votre chauffage, les économies que vous avez réalisées. Donc, c'est un vrai sujet qui rassure
tout le monde. De l'ordre de combien, justement, ces économies ?
Ça dépend un peu de votre vie. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps chez vous et que vous êtes assez casanier, on va faire 5-10%. Si vous êtes une grande voyageuse, on va faire peut-être 40-50%. En moyenne, en France, on fait entre 20-30% quand vous êtes chez vous le soir et à peu près tout le temps le week-end.
C'est vrai que c'est un vrai sujet, Elisabeth, la facture de chauffage. Ça angoisse pas mal les Français.
Oui, il y a une étude qui a été menée par Odoxa qui montre que 71% des Français redoutent l'hiver à cause du coût de la facture d'énergie. 7 Français sur 10 repoussent au maximum l'allumage du chauffage quand il fait froid. Et 77% d'entre eux essaient de faire baisser le montant de leur facture. Et bien comment ? En chauffant au minimum ou en n'allumant que certaines pièces de leur appartement.
Que dit Fabrice Marcella, notre coach de cette innovation ?
Moi j'avais une question. Je suis un fan de tout objet connecté, intelligence artificielle. La question que j'avais à vous poser, c'est de savoir si votre solution était plug and play. En gros, est-ce que c'est facile à installer, même lorsqu'on a une chaudière à gaz et qu'on n'aime pas trop aller toucher ce type d'objet ?
Alors, en effet, et c'est d'ailleurs un point très important aujourd'hui parce que le marché commence vraiment à être éduqué. Et nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il reste ce frein. Il y a toujours un peu d'appréhension par rapport aux objets connectés, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Et on voit que quand on lève ces freins, l'acte d'achat est beaucoup plus facile. Par exemple, nous, aujourd'hui, on offre l'installation. On a là jusqu'à Noël. Alors, c'est incroyable. Dès que vous dites aux gens qu'il y a une garantie, là, en ce moment, on fait la garantie, par exemple, à vie, plus le renouvellement du produit. À vie pour les 200 premiers clients et l'installation. Et quand vous avez enlevé tous ces freins-là, eh bien, ça va beaucoup plus vite et il y a en effet beaucoup moins d'appréhension. Même si le produit peut tout à fait s'installer par vous et moi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai réussi, je ne suis pas un grand technicien. Donc, en effet, c'est plug and play et ça se branche tout seul.
Combien de clients aujourd'hui référencés ?
Alors, nous, aujourd'hui, on est principalement en France et on a plusieurs milliers de clients pour l'instant sur la France. Ça démarre vraiment depuis cette année. Il y a aussi tout un changement de comportement lié à l'environnement. Et c'est quelque chose qui nous a énormément poussé. Et voilà, donc j'espère arriver aux 10 000 clients d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine.
Et ça fonctionne par abonnement ?
Alors pas du tout, vous achetez le produit une seule fois. Et puis après, ça marche tout seul. L'appli est bien sûr gratuite, vous en mettez autant que vous voulez. Vous connectez vos équipements ou pas. C'est vous qui choisissez complètement la formule.
Moi, je voudrais savoir, je rejoins un petit peu la question de Fabrice, quand on a une maison ancienne, par exemple, qu'on a un équipement qui n'est pas forcément très moderne, est-ce qu'on peut aussi venir adapter ce système ? Est-ce que vous avez essayé de réfléchir à plusieurs options ?
Alors, en fait, paradoxalement, on pense que quand on a une vieille chaudière, c'est plus compliqué. C'est en fait le contraire, parce que les vieilles chaudières, elles sont toutes pilotables par un thermostat tiers, un équipement tiers. Donc, il y a deux fils à la chaudière et c'est très, très simple. Donc, nous, on est universel par rapport à toutes les marques. Ça devient plus compliqué, en fait, à partir des chaudières plus récentes où les constructeurs ont voulu rendre un peu privé
et
intégrer leur thermostat. Et du coup, on ne peut pas forcément communiquer avec la chaudière. Donc, j'ai envie de dire, plus la chaudière est ancienne et plus il y a de chances que ce soit compatible.
On reste ensemble et on continue à parler économie de chauffage aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h17.
Europe 1.
Et quand on vit en immeuble collectif, on n'a pas toujours la main sur ce fameux chauffage. Alors, Omaze a essayé de changer la donne. À tout de suite pour découvrir comment.
L'hiver démarre officiellement ce dimanche. Les radiateurs sont déjà en marche depuis quelques semaines maintenant. Alors, dans La France Bouge, on vous aide à mieux vous chauffer et à réduire votre facture. Vous souhaitez réagir, c'est simple et possible via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors par téléphone, Raphaël, au 3921.
C'est vrai qu'il nous est tous arrivé de grelotter parce que l'hiver est là et que le chauffage n'est pas encore allumé, ou inversement, et qu'on vit en immeuble collectif. Alors, pour essayer de régler ce problème, eh bien, Homeys a été créé. Ça s'écrit H-O-M-E-Y-S. Le fondateur est avec nous. Bonjour Henri Le Noblan.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être là. Vous êtes le fondateur de ce que vous appelez le Smart Building du chauffage collectif, c'est ça ?
On avait ça, le Smart Building chauffage collectif, absolument oui.
Oui, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous attaquer à cette problématique ? Comment est née l'idée ? Vous avez déjà vécu en immeuble collectif et vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, un coup on enlevait, un coup on remettait un pull.
Alors, j'ai eu l'idée de m'attaquer à ce problème parce que j'ai moi-même vécu dans un bâtiment qui était chauffé au chauffage collectif quand j'étais petit. Et je m'étonnais du fait qu'une partie de l'hiver, on vivait avec les fenêtres ouvertes. Et j'ai remarqué que c'était pareil chez mes grands-parents, j'ai remarqué que c'était pareil chez des amis. Et donc je me suis dit, mais finalement, il y a un problème. Alors c'était les années 90, on ne parlait pas beaucoup de la transition écologique. On ne parlait pas vraiment non plus du coût de l'énergie. Et donc je pense que tout le monde vivait avec. Mais les temps ont changé et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de mieux régler les immeubles qui sont chauffés au chauffage collectif pour améliorer le confort des habitants d'une part, et réduire la facture énergétique d'autre part.
En fait, dans un immeuble collectif, il y a plusieurs problèmes que vous avez identifiés qui ne sont pas réglés.
Alors, dans un immeuble qui est chauffé au chauffage collectif, il y a effectivement plusieurs problèmes. Il y a les problèmes principaux, c'est les différences de température entre les étages. Ces différences de température entre les étages, en général, elles n'est pas très factualisée. C'est-à-dire que lors d'une assemblée de copropriété, il y a des gens qui se plaignent d'avoir trop chaud, d'avoir trop froid, et puis on a l'impression que c'est sociologique. Madame Michu, elle a toujours trop chaud. Monsieur Duchemin, elle a toujours trop froid.
Ça dépend si on est
au rez-de-chaussée.
Mais en fait,
ça dépend de plein de facteurs, exactement. Et donc, nous, en utilisant des sondes de température connectées, on va mesurer la température dans 10 à 20% des appartements de l'immeuble. Et on va identifier ces différences de température entre les étages.
Vous allez lisser.
On va les identifier. On identifie ce problème pour pouvoir le régler. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va mesurer la température donc sur la durée. On va identifier tous les problèmes de température moyenne dans le bâtiment. Et puis, il y a un autre problème qu'on voit très souvent en fait, dans les immeubles qui sont chauffés au chauffage collectif, qui sont liés à des problèmes de régulation de la chaufferie. Donc, c'est à la, c'est à la main de votre exploitant, en fait, votre exploitant chauffagiste. C'est le fait que lorsqu'il fait froid dehors, vous avez peut-être un peu froid dans votre appartement. Et quand il fait doux dehors, eh ben, vous ouvrez les fenêtres. Et ça, en fait, c'est pas normal. Ça, c'est un problème de régulation de votre chaufferie. Et donc, nous, on donne tous les éléments à votre exploitant chauffagiste pour qu'il règle votre immeuble.
Alors, j'ai un exemple sous les yeux. Vous êtes aperçu, pour Lyon Habitat, par exemple, que des appartements étaient chauffés à 22, alors que les gens avaient demandé à ce que ce soit chauffé à 20.
Alors, il y a même une réglementation en France qui dit qu'il faut être chauffé à 19 degrés, normalement. Mmh. Dans les immeubles qui sont chauffés au chauffage collectif, c'est écrit dans la loi. Alors, libre à chacun de régler son immeuble comme il le souhaite. Mais nous, ce qu'on pense, ce qui est important, c'est que l'immeuble soit réglé à la température voulue, d'une part, et d'autre part, que cette température elle soit uniforme tout au long de l'année. Et ça permet, enfin, tout au long de l'hiver, au moins, en tout cas. Et ça permet de s'assurer que le confort est maintenu dans les immeubles et la facture énergétique est aussi contenue. On parle régulièrement d'augmentation des charges dans les copropriétés. Le chauffage, c'est un poste qui représente jusqu'à 30% des charges de copropriété. Et donc, c'est très important de maintenir cette température à une température raisonnable.
Vous arrivez à faire de l'ordre de 20%, c'est ça, d'économie d'énergie
en... Exactement.
Avec
en moyenne, on
système.
Trouve entre 15 et 20% d'économie d'énergie grâce à notre système.
Que dit Fabrice ?
Je voulais rebondir justement sur ces économies. Est-ce que vous avez pensé, imaginé en tout cas, d'avoir un modèle de rémunération qui repose sur les économies que vous faites faire ?
Alors, on y a pensé et on a commencé à le proposer à nos clients. Donc, on a nos premiers clients à qui on propose une part fixe qui est assez faible et ensuite une part variable. Et on se paye alors sur les économies d'énergie.
D'accord.
Votre objectif, c'est de vous étendre parce que pour l'instant, vous êtes bien positionné, mais il y a encore des possibilités. Vous travaillez notamment avec les bailleurs sociaux.
Alors, il y a beaucoup de potentiel en France puisqu'il y a environ 800 000 immeubles qui sont chauffés avec du chauffage collectif dans le secteur résidentiel. Donc, ça fait un large marché. Aujourd'hui, on travaille avec des bailleurs sociaux d'une part, avec des exploitants chauffagistes d'autre part, directement. Mmh. On les aide à mieux piloter leurs immeubles. Et puis, on travaille avec des copropriétés. On voudrait travailler plus avec des copropriétés, mais les assemblées générales et les conseils syndicaux, ça prend du temps. Et on est une jeune société, donc on sait que ça viendra.
La concurrence sur ce marché, elle existe ?
Alors, la concurrence sur ce marché, elle existe parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la transition écologique et il y a beaucoup de gens qui savent que le bâtiment, c'est 45% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il faut maîtriser, contenir ces émissions. On a des concurrents qui remontent de la donnée du bâtiment et qui l'analysent de manière assez globale. On a peu de concurrents qui sont positionnés vraiment sur notre verticale et qui vont choisir d'analyser la donnée pour le chauffage collectif.
Alors c'est vrai effectivement pour les immeubles collectifs, c'est vrai pour tout un chacun, hein, faire ses économies d'énergie. Elisabeth, il y a énormément de choses en matière de rénovation énergétique qui ont été mises en place. Ça coûte combien finalement la rénovation pour un logement ?
Mais d'abord, l'isolation, c'est la première étape de toute rénovation énergétique parce que vous pouvez utiliser n'importe quel équipement, n'importe quelle solution. Si votre maison n'est pas correctement isolée, ça ne changera pas grand-chose. Donc, je crois que la première chose, c'est vraiment d'isoler son logement. Une fois votre logement bien isolé, là, vous pouvez envisager de changer des choses à l'intérieur. Les écarts sont très importants, les écarts de prix, parce que ça peut aller de 800 euros jusqu'à 2300 euros. Ça dépend de l'équipement que vous choisissez, ça dépend de la taille du logement, ça dépend d'énormément de paramètres.
Fabrice Marcella, notre coach.
Oui, là, la question que je me posais, c'est y a-t-il des synergies avec Win ?
Alors, il y a des...
C'est mon job, mais oui. Il y a des synergies entre startups.
Oui, mais... alors je pense que WIM, c'est uniquement c'est sur le chauffage individuel, ouais. Et nous, on est sur le chauffage collectif. Donc, la synergie, c'est qu'à nous deux, on couvre l'ensemble du marché.
D'accord.
Ouais, t'as fait.
Mais il y a des synergies possibles. Bon, écoutez, si vous êtes contente, tout va bien. On reste ensemble et on continue à parler chauffage sur Europe 1.
Il est 13h26.
Europe 1.
Et si les déchets pouvaient se transformer en matière première pour nous chauffer, eh bien c'est possible. C'est ce que propose Mini Green Power. À tout de suite.
Dans la France Bouge cet après-midi, on vous aide à mieux vous chauffer grâce à des innovations qui vont faire baisser votre facture. Si vous voulez réagir, poser des questions à nos invités, c'est simple. Écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1 ou alors appelez-nous au 3921.
Et vous savez Céline que tout se transforme. Hein, et c'est un peu en partant finalement de ce constat qu'est né Mini Green Power. Bonjour à Hubert Sabourin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de cette entreprise qui propose en fait des solutions de combustion de déchets. Vous avez, vous, je crois, travaillé pendant 27 ans dans l'industrie pétrolière et votre cofondateur, lui, est expert en turbines. L'idée vous est venue à tous les deux de créer finalement des petites centrales à partir d'énergie renouvelable, mais à l'échelle locale, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Donc on s'est rencontrés il y a à peu près 6 ans et... L'un comme l'autre, on avait envie de faire une conversion des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Voilà. Et donc, on a décidé de mettre notre savoir-faire, nos compétences, à fabriquer non pas des énormes centrales qui vont dispatcher leur énergie sur des milliers de kilomètres avec des pertes en ligne, mais sur les plus petites centrales possibles, qui soient viables économiquement et qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. Et on s'est focalisé effectivement sur les déchets. Dans la région PACA où on est implanté, on s'est aperçu que les collectivités payent des sommes considérables chaque année pour se débarrasser de leurs déchets verts ou de leurs déchets de bois, et qu'en fait, ces déchets ont une valeur énergétique importante et qu'on pouvait très bien les valoriser sur place, en circuit court, pour en faire de l'énergie, et donc éviter à ces collectivités à la fois le coût d'évacuation et éviter l'achat d'énergie fossile pour chauffer leur propre bâtiment.
Du coup, vous récupérez, vous, ces déchets verts notamment, la partie qui n'est pas compostable, vous la transformez ? Comment est-ce que vous faites ?
Alors, soit on récupère effectivement directement la partie qui n'est pas compostable, donc la partie, on va dire, ligneuse, soit on peut récupérer plus tard la partie qui a composté, parce qu'en fait, pour faire du compost, il faut avoir des branches, il faut que le mélange soit bien aéré. Et donc, quand, en général, ce mélange est mélanger aussi avec des bouts de station d'épuration pour faire tout un ensemble qu'on va laisser maturer pendant plusieurs mois. Et au bout de plusieurs mois, on filtre ce mélange. D'un côté, on va sortir du compost et de l'autre, donc des refus de compost qui sont des petits morceaux de branches couverts un peu de boue. Et c'est ça qu'on va exploiter.
Alors ça, qu'est-ce que vous en faites ? Vous le brûlez ? Comment ça se passe ?
Alors en fait, on fait ce qu'on appelle de la combustion étagée, c'est-à-dire qu'on va transformer tous ces déchets de biomasse en gaz et on va brûler ce gaz immédiatement de manière propre.
C'est quelque chose que vous avez breveté. Hein.
Voilà, absolument. Nous avons 9 brevets déposés sur notre procédé, donc à la fois sur le procédé de combustion, sur la façon d'évacuer les cendres, la façon d'associer ce procédé de combustion à des turbines pour générer de l'électricité. Donc on a déposé beaucoup de brevets pour pouvoir donc, valoriser ces déchets en énergie de manière propre.
Parce que si je schématise, ce gaz, il est brûlé de manière propre et ça fait soit de la vapeur, soit de l'eau chaude, c'est ça ?
Alors, soit de l'eau chaude, soit de la vapeur. Et la vapeur peut être utilisée pour faire de l'électricité dans une turbine à vapeur classique. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'applications possibles à partir de la chaleur qu'on génère. On peut aussi générer du froid Donc alimenter un réseau de chaleur comme on, voilà, pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, hein, donc le faire du chauffage collectif à partir des déchets générés par une collectivité.
Fabrice, notre coach.
Oui, la question que je me posais, c'était de savoir combien de foyers peuvent être chauffés avec une mini green power.
Alors on peut aller de 500 logements à 5000 logements, hein, tout dépend de la quantité de déchets verts ou déchets de bois qu'on va valoriser à travers notre mini centrale. Il faut savoir que donc en moyenne, en France, chaque personne produit 100 kg de déchets verts par an et puis 160 kg de déchets de bois. Donc avec tous ces déchets-là, effectivement, on peut alimenter, en fonction de la taille de la collectivité, un réseau plus ou moins grand de chaleur pour chauffer donc de 500 à 5000 logements.
Aujourd'hui, ça marche. Il y a 3 centrales, je crois, qui fonctionnent. Il y en a une en Sicile,
il y en a une ailleurs,
dans le Var, et puis au Pays de Galles.
Et une au Pays de Galles, effectivement.
Et une quatrième qui est en construction.
Et une quatrième en construction en Bretagne. Alors pour l'instant, tous ces clients, ce sont des industriels, hein, qui veulent valoriser également des déchets de bois, mais aussi parfois des déchets agricoles, comme par exemple des litières de volailles souillées.
Elisabeth,
vous passez par des collectivités, vous passez par des... C'est un processus industriel, hein, de ce que je comprends. Est-ce que nous, à notre niveau, en tant que particulier, on peut aussi collaborer avec vous, faire en sorte de transformer nos propres déchets, de travailler avec vous,
alors
d'une
ça,
manière ou d'une autre.
Nos centrales, en fait, s'adressent pour des collectivités ou des industriels, parce qu'on part de, on va dire, 500 kW thermiques, donc c'est comparé à une chaudière individuel de 10-20 kW.
Bon, mais ça pourrait intéresser, voilà, par exemple les bailleurs sociaux.
Absolument, ah, tout à fait. Donc on a par exemple signé deux contrats avec Engie et Dalkia, pour ne pas les nommer, pour alimenter de futurs écoquartiers qui vont être construits dans un an ou deux.
Oui, donc ça arrive aux particuliers.
Donc ça arrive aux particuliers, voilà, absolument.
Vous avez levé des fonds, mais vous cherchez aussi de nouveaux investisseurs, je crois, aujourd'hui.
Voilà, on a levé plus de 5 millions d'euros depuis le début de la société il y a 5 ans, et on cherche encore aujourd'hui 2 millions d'euros. Donc pour financer la R&D et surtout le développement commercial de la société.
Parce que la suite, c'est quoi, justement?
Alors la suite, c'est de... il y a plusieurs suites. Une première,
continuer à construire,
voilà,
évidemment,
des centrales. Donc là, maintenant, on intéresse aussi beaucoup d'industriels ou de collectivités qui ont ce qu'on appelle des CSR, les combustibles solides de récupération, qui sont en fait les résidus issus du traitement des ordures ménagères. Une fois qu'on a éliminé le bois, le verre, les métaux, la partie fermentée cible, ben, il reste des composés où il y a beaucoup de plastique et qu'avant on enfouissait, que maintenant on ne peut plus enfouir puisque la France est dotée d'objectifs très ambitieux de réduction des enfouissements. Donc,
et
c'est
ça,
CSR.
Vous êtes capable de le transformer,
voilà,
aujourd'hui.
On peut le transformer, absolument. Et donc on intéresse plusieurs clients pour valoriser ces CSR en énergie.
Fabrice ?
Oui, la question que je souhaitais vous poser, c'est que vos centrales sont tech et connectées, vous récupérez toutes ces données et vous parlez souvent de big data, mais c'est pour en faire quoi ?
Alors ça nous permet de suivre les centrales à distance, donc toutes les centrales qu'on a démarrées, on peut les suivre à distance depuis notre siège social ailleurs, et on peut suivre en permanence le fonctionnement de la centrale, donc tous les paramètres de fonctionnement, et voir très rapidement s'il y a un problème, où est le problème et comment le résoudre. Et ça nous permet aussi de déterminer les optimums de fonctionnement de nos machines en regardant sur le temps, en fonction de la biomasse qu'on va traiter, comment régler au mieux la machine.
4 centrales donc, puisque la quatrième est en construction. Vous avez déjà d'autres projets qui sont en cours?
Oui, on a plusieurs projets en cours. Donc les 2 centrales pour alimenter des réseaux de chaleur dont je vous parlais tout à l'heure.
Oui.
Et puis 2 autres centrales donc, pour valoriser ces fameux CSR qui vont démarrer l'an prochain.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé des maisons sans chauffage.
Mais oui, ça nous vient d'Allemagne, peut-être que vous connaissez. En Allemagne, c'est le label Passivhaus, c'est le label allemand des performances énergétiques. Il y en a déjà 2 en France, hein, qui avoir été labellisées dans l'Oise. On les appelle les maisons passives. Elles sont donc encore très rares. Ce sont des maisons en ossature bois à très haute performance énergétique, des maisons qui n'ont pas besoin de chauffage. Elles répondent à des critères bien particuliers. Elles peuvent se chauffer sur l'air grâce à de la ventilation qui distribue de la chaleur produite par la vie de la maison. La vie de la maison, ce sont les appareils, la cuisson, la douche, les habitants qui vivent à l'intérieur. Et l'objectif principal, c'est de capter donc un maximum de chaleur, même aussi évidemment à travers l'ensoleillement, pour pouvoir avoir ce que l'on appelle donc ces maisons passives. En France, c'est la société ProPassif ou l'association La Maison Passive en France qui se charge de certifier ces maisons sans chauffage.
On reste ensemble et on continue à se chauffer aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend, 3921 Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous, bien sûr.
Dans la France bouge cet après-midi, on parle du chauffage, comment mieux se chauffer, et on en parle, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Nous sommes avec Jean-Laurent Chaube, cofondateur de WIN, le thermostat intelligent qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle et qui détecte votre présence, et oui, Céline, dans la maison. Henri Denoblanc, fondateur de Omaze, qui réduit la facture d'énergie des bâtiments équipés de chauffage collectif en analysant les données de température. Et Hubert Sabourin, cofondateur de Mini Green Power, qui a développé une technologie qui permet de chauffer des logements à partir de déchets. Notre coach aujourd'hui, c'est Fabrice Marcella, fondateur du Village Baïsé à Paris. Et évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Je crois qu'on a déjà quelques questions sur Twitter.
Hashtag Europe 1, on a Olivier par exemple qui nous dit pour le thermostat Win Home, votre site internet simule le gain énergétique possible du thermostat. Comment arrivez-vous à estimer le gain sachant que chaque logement et famille sont uniques?
Ah, exactement. Une question, Jean-Laurent Chaube.
Merci. Donc en fait, c'est en effet une estimation. Et donc sur le site, c'est selon la surface de la maison, c'est selon l'énergie que vous utilisez, c'est aussi selon votre code postal. Et puis c'est aussi selon votre style de vie, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez le choix entre casanier, actif et grand voyageur, je crois. Et donc voilà, on a des cibles comme ça, et donc selon, bah, ça navigue entre 10 et 20 ou 30%. Et donc en effet, vous pouvez estimer, un, votre chauffage, deux, les économies que vous feriez avec WIN, et trois, les émissions de CO2 que votre maison fera au bout du compte.
Autre question,
oui,
toujours sur Twitter.
Celle de Marc. Est-ce qu'on peut prétendre à des subventions de l'État pour acquérir vos différentes solutions, messieurs?
Ah, bonne question.
Hubert Sabourin. Donc, oui, nos centrales, donc on est en discussion avec l'ADEME actuellement, mais a priori, donc elles seront éligibles à ce qu'on appelle le fonds chaleur. Donc c'est un fonds qui permet de financer jusqu'à 50% du coût de l'installation.
Qui est de l'ordre de...
Alors oui, pour nos petites centrales de chauffage, on va dire de 400 000 euros à 1 million d'euros en fonction de la puissance de la centrale.
Oui, ça, jusqu'à oui. 50%, ça fait déjà une jolie...
Ça fait déjà une très jolie économie pour une collectivité.
Même question pour vous, Henri.
Alors nous, il y a une fraction du dispositif qui peut être financée par les certificats d'économie d'énergie. Donc ça peut réduire un petit peu le coût. Mais on a un dispositif qui, pour un immeuble de 50 logements, on va coûter à peu près 500 euros par an. Donc, on est vraiment une goutte d'eau dans la facture de gaz.
Qui est à la charge de qui?
Qui est à la charge du propriétaire.
Du propriétaire. Fabrice, une question?
Moi, j'avais une question pour WIN. Est-ce que votre solution est compatible HomeKit? Sous-entendu, pour tous ceux qui ont des iPhones, de pouvoir le piloter avec la voix, notamment.
Alors, on est en train de travailler...
Il est très moderne, Fabrice, vous savez.
Non, mais tout est sur la montre, moi. Donc,
tout à fait.
Non,
mais en effet, aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les solutions d'assistants vocaux ont vraiment démocratisé les objets connectés. Enfin, nous, on a vraiment vu un avant et un après. Et donc, c'est pourquoi, là, on est en train de travailler sur plutôt Google Home et Amazon. HomeKit étant un sujet à part. Mais oui, au moins sur ces deux premiers, on sera compatible très prochainement.
Vous parliez de la protection des données. Ça m'amène à une autre question. On peut le déplacer, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché à un appartement. Si j'ai envie de l'emmener dans une résidence secondaire ou en vacances avec moi, je peux le faire?
Bien sûr. Alors, le mieux, c'est d'en acheter deux à ce moment-là.
Évidemment, oui.
Ce que font certains de nos clients qui ont deux produits donc sur la même application. Et oui, non, tout à fait, vous pouvez le déplacer dans n'importe quel logement. C'est très facilement reparamétrable.
Elisabeth, il y a quelque chose qui se développe, qui revient en tout cas, c'est le chauffage au bois.
Bah oui, parce que c'est une énergie qui convainc de plus en plus les particuliers pour se chauffer. Pourquoi? Parce que c'est réputé comme étant plus économique, plus écologique que l'électricité ou le fioul. Et aujourd'hui, on estime tout de même à plus de 8,5 millions de ménages français qui l'utilisent. Et paradoxalement, on a un bon chiffre et pourtant les ventes stagnent. Pourquoi? Eh bien parce que l'amélioration des performances énergétiques des maisons permet de se chauffer avec moins de bois qu'il y a quelques années.
Vous avez trouvé aussi, je crois, des radiateurs à inertie.
Alors, d'après les experts, moi je ne les connais pas, mais d'après les experts, ils remplacent largement les convecteurs électriques. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ou pas pour les particuliers, nos auditeurs qui nous écoutent? Apparemment, c'est intelligent, c'est connecté. Ils peuvent entraîner jusqu'à 45% d'économie sur la facture de chauffage. C'est quelque chose que vous...
Je vous sens dubitatif, ouais, Henri.
Ah non, absolument pas dubitatif. C'est juste que les radiateurs à inertie sont des radiateurs radiateur électrique. Et donc, dans la majorité des cas, c'est du chauffage individuel. Mais moi, je suis personnellement très convaincu par la solution. Il y a une société qui a développé des radiateurs aussi, qui utilise de l'énergie qui est créée par des processeurs qui analysent des données. Du coup, chez vous, c'est une boîte qui s'appelle Carnot. C'est des radiateurs intelligents, mais vraiment doublement intelligents. C'est-à-dire que non seulement ils se mettent en marche au bon moment, mais en plus, ils utilisent des microprocesseurs pour créer
la
chaleur.
Carnot, effectivement, avec un Q, et on les connaît, on les a reçus ici sur Europe 1. Le développement pour tous les trois, avec évidemment ce mouvement dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire cette conscience écologique qui s'est réveillée, vous avez senti vraiment qu'il y avait un changement, Hubert ?
Oui, absolument. Alors, par exemple, en France, 42% de l'énergie qu'on utilise, c'est pour se chauffer. Donc, et aujourd'hui, il n'y a que 20% de cette énergie qui est d'origine renouvelable. Donc si on passe de 20% à 40%, on aura fait un énorme pas vers le verdissement des énergies en France. Donc il y a vraiment une potentialité énorme de ce côté-là.
Potentialité énorme, j'imagine, pour vous deux aussi, Jean-Laurent et Henri.
Oui, nous, alors en fait, il y a surtout un gros potentiel, une nouvelle tendance, comme je disais tout à l'heure, de l'environnement, et c'est ce à quoi on travaille. Il faut savoir qu'en France, une maison a besoin à peu près de 30 arbres pour capter le CO2 du chauffage. Et nous, quand on fait des économies d'énergie, un, on réduit ce besoin d'arbres, et deux, on dégage aussi un budget pour toutes ces associations qui existent aujourd'hui, qui consistent à planter des arbres. Ça peut paraître assez simple comme idée, mais c'est très, très, très performant. Et donc, à la fin de cet hiver, ce qu'on proposera à nos clients, c'est à la fois de constater de combien ils ont réduit leur impact, mais aussi, on fait à peu près 150-200 euros d'économie par an, à 3 euros l'arbre, je peux en planter bien plus que 30. Et donc, voilà, c'est de consacrer aussi une partie de ce budget à la plantation d'arbres pour redevenir neutre d'un point de vue carbone.
Henri.
Et moi, je suis convaincu aussi que les mentalités ont changé. Enfin, je le disais tout à l'heure. Dans les immeubles qui sont chauffés en chauffage collectif, on ouvrait les fenêtres, parfois parce qu'il faisait trop chaud. Je pense qu'aujourd'hui, on ne l'accepte plus. Ça, c'est le premier point. Et on pense aussi, nous, qu'avec la donnée du bâtiment, demain, on sera capable de préconiser les travaux de rénovation énergétique qui seront les plus efficaces. Aujourd'hui, on fait des travaux parce qu'on a un bureau d'études qui vient. On a quelqu'un qui nous recommande de faire des travaux de rénovation énergétique dans notre bâtiment. Demain, on utilisera la donnée qu'on a récupérée sur le bâtiment pour identifier les travaux qui seront les plus efficaces pour telle ou telle typologie de bâtiment. Et donc, la suite pour nous, ce sera aussi ça.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler chauffage et surtout des manières qui peuvent être utiles pour apprendre à mieux se chauffer. On a tous besoin d'avoir des conseils. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est 13h48.
Europe 1.
Ils ourdissent, ils tissent, ils font du haut de gamme depuis 1850. Declercq Passementier et dans un instant, l'entreprise qui va bien. A tout de suite. Et c'est l'heure de découvrir, Raphaël, l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Declercq Passementier. Bonjour Jérôme Declercq.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette belle maison dont l'histoire débute en 1852, même un petit peu avant 1850. Votre arrière-grand-père, Joseph Berthaud, a acheté à Paris une petite boutique. On est rue Quincampoix, je crois que c'est là tout le début du débat.
On est rue Quincampoix, voilà. En fait, il était garçon de course. Il s'occupait de transporter les rideaux et les passementeries. Et alors, on lui a demandé s'il avait envie de faire le passementier. Il est devenu passementier. Et c'est comme ça que c'est devenu dans la famille quelque chose d'incroyable.
Passementier, c'est un métier, c'est un art même. C'est quoi passementier ?
Une embrasse pour embrasser les rideaux, une frange pour décorer les rideaux, un galon pour les coussins, un câblé. La passementerie, c'est l'art du détail, c'est l'art de la courtisane, du trilili, du câblé, de la frange, des mèches, des jasmins, autant de mots qui sont comme des petits poèmes.
Oui, c'est vrai, c'est joli quand vous en parlez. Vous êtes, vous, la sixième génération et ça s'est transmis finalement d'abord de père en fille, je crois. Ce sont des décorations haut de gamme avec des savoir-faire. Il n'y a pas un savoir-faire de la passementerie, il y en a plusieurs, il y a plusieurs métiers.
Oui, il y a plusieurs métiers, c'est comme une petite manufacture. On va avoir la personne qui va s'occuper des matières premières, donc elle va être réassortisseuse et elle va jouer avec les matières comme elle va jouer avec de la peinture, mais elle va jouer avec des bobines de fil de soie. Donc ça déjà, c'est extraordinaire, et puis après vers le retordeur qui va préparer les câblés, qui va préparer tous les apprêts pour pouvoir faire les passementeries, et puis il va y avoir le tisseur à bras, les personnes qui vont s'occuper des métiers jacquard, et puis l'établisseuse, alors c'est la personne qui est à l'établi et qui va finaliser la passementerie et qui va faire ces petites merveilles qu'on va retrouver partout dans le monde.
Alors je regardais, 80% est encore fabriqué à la main.
Voilà, 80% est entièrement fait à la main, non pas parce que c'est comme ça, une espèce de fantasme, mais parce que c'est
très
indispensable,
précis.
C'est très précis, et pour pouvoir avoir une qualité exceptionnelle, il faut le faire à la main.
L'atelier a beaucoup déménagé, rue Saint-Sauveur, puis dans les années 30, Gaston Perrin a inventé, je crois, le petit volant qui va remplacer la passementerie. Et du coup, il y a eu pas mal de changements. Il a fallu trouver plus grand, déménager.
Il a fallu trouver plus grand, déménager. C'est surtout mon papa, en 1970, qui a dû déplacer l'atelier à Montreuil-aux-Lyon, dans l'Aisne, où il y avait un petit vivier de passementiers qui travaillaient chez eux. Et c'est à ce moment-là que l'atelier a vraiment grandi et s'est vraiment installé là, dans cette magnifique région.
Oui, et puis vous avez racheté plusieurs maisons qui datent du 18e. André Boudin, connu pour avoir fabriqué parmi les plus belles passementeries au monde. Ça vous a donné cette assise supplémentaire, cette reconnaissance internationale ?
Ça nous a donné surtout le goût, en fait, à mon père et à ma grand-mère. Moi, j'étais petit et je travaillais avec eux. Et vraiment, l'envie de faire le plus bel atelier au monde, le plus performant, le plus efficace, et aller vraiment jusqu'au bout du détail, le plus loin possible.
Vous dites... Quand j'étais petit, vous avez toujours voulu travailler dans cette maison. Vous disiez, moi, je veux être PDG passementier.
C'est ça, oui. Je raconte cette petite histoire qui est charmante. Je courais dans les métiers à tisser et puis je dis à papa, je serais passementier et PDG. Voilà, ça me plaisait. Je trouvais ça extraordinaire de faire comme lui, d'avoir cette liberté de créer des choses absolument incroyables. Et puis en même temps, tous ces métiers qui se mélangeaient et puis ces ouvrières fabuleuses. Non, c'était chouette, ouais.
Fabrice, notre coach.
Alors, ce qui est super dans cette émission, c'est que j'apprends beaucoup de choses. J'ai découvert ce qu'était la passementerie en préparant l'émission. Moi, je suis toujours très curieux des entreprises qui se créent, mais aussi celles qui ont une vie incroyable. Enfin, votre entreprise date de 1852. La question que je me pose, c'est comment faites-vous pour continuer à vous réinventer ? Comment ça se passe ? Voilà,
Se réinventer, en fait, c'est chaque jour. Bien sûr, on se réinvente soi-même, parce que j'ai cette faculté-là de me réinventer, mais c'est avec tous les gens avec qui on travaille qui nous aident à se réinventer. C'est aussi les clients, c'est aussi Château de Versailles, c'est aussi les petits clients tapissiers décorateurs qui vous aident et qui vous poussent toujours à faire mieux. Et puis après, il y a le marché aussi qui devient plus connecté, parce que je vois que vous êtes très intéressé par la connexion, et qu'aujourd'hui, il faut aller dans le modernisme, et c'est intéressant aussi d'après d'aller travailler sur des matières comme la fibre optique et de créer des passementeries en fibre optique connectée, lumineuse, etc. Et voilà, et d'être ancré dans son temps.
Elisabeth,
on voit sur votre site internet, tous vos tissus sont absolument magnifiques. Mais moi, je me demandais, qui sont vos clients aujourd'hui?
Nos clients, ça peut être vous. Hein, vous avez le droit de vous offrir jolie petite frange pour personnaliser votre intérieur. Parce qu'en fait, le drame, il est là. Hein. C'est qu'aujourd'hui, la personnalisation est une chose très importante. On voit toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes rideaux, toujours les mêmes
fauteuils.
C'est
ça, il y a une espèce d'uniformité.
Voilà.
Vous, c'est très différent de ce qu'on propose aujourd'hui. Donc, je me demandais, vous citiez le château de Versailles, mais il y a aussi des particuliers.
Oui, plein de particuliers qui adorent la passementerie. Et de toute façon, toutes ces grandes fortunes qui sont partout dans le monde sont aussi des particuliers, quelque part, qui passent par des décorateurs pour venir faire leur décoration et acheter de la belle passementerie.
Il y a d'ailleurs 60% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui qui se fait à l'international.
Voilà, 60%. Et ça, depuis déjà de nombreuses années, depuis plus de 50 ans, on a vraiment, mon père a beaucoup développé ça, et l'international.
Vous parliez de Versailles. Vous venez de refaire le lit de Louis XVI à Versailles parce que vous aviez tous les détails à votre disposition ?
On avait la main-d'œuvre, on avait les détails, on avait des documents dans notre musée. Et puis, on a travaillé beaucoup avec les conservateurs aussi pour retrouver parmi les écrits des choses où on pouvait justement s'inscrire et comment on pouvait aider au mieux le château pour arriver à réaliser cette passementerie complètement incroyable et sublime.
Et vous avez aussi redécoré l'entrée de Chambord, mais là pour Noël.
Oui, on a décoré l'entrée de Chambord, c'était un espèce de petit challenge comme ça. C'était très sympa de faire ça pour le château et pour donner vraiment un aspect très royal à cette entrée et très Noël en fait.
Et la suite, c'est la transmission, bien sûr, avec la septième génération qui est déjà à vos côtés.
Voilà, Margot, donc, qui est là avec nous depuis quelques années maintenant. Je dis avec nous parce que je travaille aussi avec ma sœur qui est à l'atelier. Moi, je m'occupe de toute la création. Et là, Margot est avec nous et apprend ce magnifique métier, mais très compliqué. Donc, il faut du temps.
Il faut du temps et vous nous avez fait voyager dans le temps justement aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Declerc pour Declerc Passementier, c'est l'entreprise qui va bien. Merci à Fabrice Marcella, fondateur du Village Baïssé à Paris qui était avec nous aujourd'hui. Elisabeth et Céline, rendez-vous demain midi sur Europe 1.